Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Café Pouchkine. Je voudrais évoquer aujourd'hui un écrivain qui a eu un succès phénoménal, incroyable, sous le régime soviétique, et qui, aujourd'hui, de façon qui me semble un peu exagérée, est passé à la trappe. C'est-à-dire que on n'en parle plus beaucoup. Cet écrivain, c'est Maxime Gorki. Alors, Maxime Gorki, il est né en 1868 à Nijni Novgorod. Il s'appelait Alexei Maximovitch Pieshkov. Et Alexei Maximovitch Pieshkov est né dans une famille, disons, un peu particulière. Son père est mort, il était très jeune. Sa mère, finalement, est partie, l'a laissé dans la famille de ses grands-parents. Et il a été élevé, enfin, les premières parties de sa vie, les premières années de sa vie se sont passées au sein de la famille de son grand-père maternel. On a dit qu'il était un des fondateurs de ce qu'on a appelé le réalisme socialiste. Bon, ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Et il a fait tous les métiers pour survivre. Il a travaillé sur un bateau le long de la Volga, il a même été ce qu'on appelle batelier de la Volga, c'est-à-dire qu'il allait les péniches le long de la Volga. Il a commencé à écrire. Et là, il a eu très vite beaucoup de succès. Alors, au point que, en 1902, il a été élu à l'Académie. Cette élection a été annulée par le pouvoir. À titre de protestation, Tchekhov et un écrivain de stature, Korolenko, ont démissionné de l'Académie pour protester. Et Gorki, cet enfant, disons, de la misère, a connu les plus grands écrivains qu'étaient ses contemporains. Il a été l'ami de Tolstoï, l'ami de Tchekhov. À titre d'exemple, il a écrit en 1902 une pièce qui s'appelle « Les Bas-fonds », où il parle de ce qu'il connaît bien, à savoir les bas-fonds de la société, au point que cette pièce a été mise en film par Jean Renoir, avec Jean Gabin et Louis Jouvet. Elle a été mise en film également par le réalisateur japonais Kurosawa. Gorki a été attiré assez vite par les mouvements révolutionnaires. En 1907, il a écrit un roman, La mer, dont le grand réalisateur Poudovkin a tiré un film muet absolument remarquable. Mais lorsqu'arrive le pouvoir soviétique en Russie, Gorki très vite sent le danger qu'il y a. Il va écrire un livre qui s'appelle Les Pensées intempestives. Et en 1921, il quitte la Russie. Il est tuberculeux, c'est un bon prétexte pour partir. Il a essayé, avant de partir, de sauver de l'exécution capitale un historien de renom, le grand-duc Michel. Lénine lui a répondu : la révolution n'a pas besoin d'historiens. Et donc Gorki va vivre en exil jusqu'en 1932. Pourquoi 1932 ? Parce que Staline l'a prié de revenir en Russie, parce qu'il avait la nostalgie de la Russie, parce que finalement, il ne pouvait pas se passer de la Russie, et il va devenir une idole. Une idole, on va tirer ses livres à des millions d'exemplaires, c'est assez incroyable. Et il meurt 4 ans plus tard, en 1936. 2 ans plus tard, en 1938, on va dire que Gorki a été assassiné, ainsi que son fils un an plus tôt, sur l'ordre de Yagoda, directeur du KGB de l'époque. Un peu plus tard, on dira même que c'est Staline lui-même qui a ordonné le meurtre de Gorki. Beaucoup d'historiens sont un peu sceptiques sur cette histoire de meurtre. Gorki était très malade, mais le bruit a couru. Et jusqu'à la disparition de Staline, et même au-delà, Gorki va avoir des hommages incroyables. D'abord, il a eu droit à des funérailles nationales. Son cercueil était porté, entre autres, par Staline lui-même. La plus grande artère de Moscou va porter son nom jusqu'en 1990. Elle va s'appeler la rue Gorki. Aujourd'hui, elle est redevenue la rue Tverskaya, c'est-à-dire la rue qui mène à Tver. Sa ville de naissance, Nijni Novgorod, va être débaptisée pour s'appeler Gorki. Aujourd'hui, la ville est redevenue Nijni Novgorod. Alors, la question qui se pose, c'est Gorki méritait-il aussi bien cet excès d'honneur que cette indignité ou cet oubli dans lequel il est tombé? Il a écrit des œuvres quand même qui, à les relire aujourd'hui, sont d'une qualité évidente, d'autant plus que dans tous ces écrivains qui se sentaient attirés par la Révolution, qui se sentaient attirés par le milieu populaire, qui se sentaient attirés par le monde ouvrier, il était le seul qui pouvait en parler en connaissance de cause. Et il y a au moins un livre qui, je pense, a résisté à l'épreuve du temps. Ce livre, c'est Enfance. Enfance, c'est le récit de la jeunesse de Gorki. Le récit à la fois impitoyable et d'un réalisme qui fait parfois froid dans le dos. Voici par exemple dans Enfance de Gorki ce que dit le grand-père, un grand-père, un homme brutal qui le battait, qui battait son épouse. Et un jour, le grand-père lui dit, l'autre jour, « Je suis allé un peu fort, mon bonhomme, j'étais très en colère, tu m'avais mordu, griffé, alors je me suis fâché, mais ce n'est pas un malheur que tu aies reçu plus que ta part, cela te sera compté un jour. Retiens bien ceci, quand on est battu par les siens, par ses parents, ce n'est pas une offense, c'est une leçon, ça ne compte pas. Mais ne te laisse pas battre par les autres, tu crois peut-être qu'on ne m'a jamais battu ? Même dans tes plus mauvais rêves, tu n'en recevras pas autant. On m'a tellement offensé que le Seigneur, du haut du ciel, devait en pleurer sans doute. Et les résultats, moi, un orphelin, le fils d'une pauvresse, je me suis fait une place au soleil, je dirige un atelier, et c'est moi qui commande ici. Toi, tu es venu par le bateau. C'est la vapeur qui t'a transporté tandis que moi, dans ma jeunesse, je remontais la Volga en tirant les péniches à la force de mes reins. La péniche avançait sur l'eau et moi, pieds nus sur les pierres coupantes à travers les éboulis, je suivais la rive du lever du jour à la tombée de la nuit. Le soleil nous chauffait la nuque, la tête bouillonnait comme une marmite, courbée en trois à en faire craquer les os, on marchait sans même voir sa route, les yeux noyés de sueur et de larmes. La mort dans l'âme. Tu aurais tort de te plaindre, on marchait et soudain, la cour a glissé, on tombait, la gueule par terre, on était presque content d'être à bout de force, on n'avait plus qu'à se reposer ou à crever. Voilà comment on vivait à la face de Dieu et du miséricordieux Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que j'ai parcouru trois fois notre mer à la Volga. Mais la quatrième année, j'étais déjà pris comme contremaître car j'avais montré au patron de quoi on était capable. Et puis, dans ce récit enfance, il y a le personnage de la grand-mère. Une femme du peuple, simple, toujours de bonne humeur, prenant la vie comme elle vient, donnant des conseils aux autres. Par exemple, contre l'époux, ma pauvre dame, il faut se laver souvent, prendre des mains à la vapeur. Si les poux sont sur la peau, prenez une cuillère à peau de graisse d'oie très pure, une cuillère à thé de sublimé et trois bonnes gouttes de fives argent. Et quand elle ne pouvait pas, elle disait, « Oh, allez, à pêcherie, voir le père Assaille. Moi, je ne saurais pas vous conseiller. » Et puis, la foi de la grand-mère, quelque chose d'assez extraordinaire. Oh, c'est une femme toute simple. C'est une femme qui n'a pas lu. Et en même temps, c'est une femme à la fois intacte, qui croit aussi bien au Christ qu'aux démons dont on lui a parlé depuis qu'elle est toute petite. Par exemple, lorsque le grand-père et la grand-mère doivent déménager, elle tient à amener avec elle le damavoï. Alors le damavoï, c'est quoi? Le damavoï, c'est l'esprit de la maison. Il protège les gens, mais il faut faire attention de ne pas le vexer. Et quand on s'en va, il faut le prendre avec soi. Sinon, si on le laisse tout seul dans une maison, il meurt. Et voici la façon dont la grand-mère essaie d'emmener le damavoï en mettant une pantoufle dans le four. Je vous remercie de m'avoir écouté. Razavion mi mi razo, razo.